qu'est-ce que la punk?
Tu connais les punks un peu? Mal, très mal. Très mal, oui.
Punk, c'est un mot anglais qui veut dire minable, moche. Preuve qu'ils attachent peu d'importance à ce qui peut paraître important à d'autres personnes.
Faire peur, choquer, bousculer les habitudes, objectif raté, il faut bien le dire. Car ils n'ont réussi à susciter que curiosité, étonnement, indifférence, parfois peut-être aussi pitié.
Le phénomène punk, c'est l'aboutissement de cette dégradation, de fin totale d'une civilisation dans son incapacité à ne plus rien créer d'autre que la traduction ridicule et sommaire des cultures des autres.
Une histoire de l'anarcho-punk, première partie. Un entretien avec Guéna.
Encore que tout ça, ça soit très séduisant, et puis qu'après vous avoir interrogé, on ne sache toujours pas à quoi s'en tenir, notamment sur l'utilité du punk.
Une émission de Radio Zinzine. Alors salut, on est avec toi aujourd'hui, Guéna. On est en Bretagne, exactement dans le petit village de Lokirac, charmant village face à la mer. Et on va parler de l'anarcho-punk. Ce mouvement qui est l'anarcho-punk. Alors pour commencer, on peut tout simplement partir du mot. Anarcho-punk, c'est une contraction de anarcho, qui vient d'anarchiste, et punk, la musique punk. Donc on imagine que c'est une rencontre entre à la fois un mouvement politique et à la fois un mouvement musical. Alors comment l'anarchisme rencontre le punk?
Ben, peut-être qu'on peut commencer par comment le mouvement punk a explosé, tout simplement. C'est-à-dire que en 1976, lorsque Sex Pistols, le groupe plus connu, a sorti Anarchy in the UK and God Save the Queen, c'était un peu un grand pavé dans la mare dans le rock and roll, parce que bon, les gens, ils avaient envie un peu de passer à autre chose des années 60 au rock and roll, et aussi c'était une grande période de la disco, et donc des trucs un peu commerciaux, et au niveau des groupes de rock, c'était vraiment des groupes psychédéliques, de musiciens professionnels, de groupes de boys band et tout ça, et donc à un moment donné, certains groupes comme les Stooges ou les Ramones ou New York Dolls avaient commencé à influencer une autre forme de rock'n'roll, un peu plus contestataire, MC5 également, Gang of Four. Et donc quand Sex Pistols a lancé Anarchy in the UK, God Save the Queen, dans la tête des gens, ça a été vraiment une explosion, quoi. Et c'était vraiment un pavé dans la mare, parce que c'était un rejet contre le système, une contestation, un mouvement un peu artistique, avec des looks extravagants, souvent travestis, qui sortaient des cadres et des cadres habituels. Et donc ça a eu une influence, et du coup il y a pas mal de groupes suite à ça qui se sont montés, où finalement il n'y a pas besoin d'être un grand musicien, d'être un professionnel pour pouvoir chanter et faire la musique, et surtout c'était pouvoir s'exprimer librement et dire ce qu'on pouvait dire. Donc les premiers groupes punk n'étaient pas strictement anarchistes, même si Sex Pistols a utilisé le mot anarchie, Destroy, c'était... I am an anarchist, I am an antichrist. Et par rapport au parti conservateur en Angleterre, c'est quelque chose qui, et par rapport aussi à la reine d'Angleterre, par rapport au Royaume-Uni, ça a été quelque chose d'assez provocateur. C'était vraiment attaquer l'establishment. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu pas mal de groupes qui se sont développés avec des textes plutôt politiques comme The Clash, The Damned, The Stranglers, Buzzcocks et tout un tas d'autres groupes. Et en 1978, il y a eu un groupe qui est apparu qui s'appelle Crass. Et Crass ont pris vraiment au sérieux cette idée d'anarchisme, c'est-à-dire qu'en fait, en tant que tel, ils défendaient vraiment les valeurs et les idées de l'anarchisme. Donc ça a été un peu la rencontre entre l'anarchisme et le punk, d'un point de vue plus sérieux et pas simplement au niveau de l'imagerie. Et du coup, ça a créé plus ou moins le mouvement anarcho-punk. Et une des bases du mouvement anarcho-punk, c'était aussi de remettre en cause ce que les punks étaient devenus. C'est-à-dire qu'en 2 ans, sous toute cette explosion, cette possibilité d'une espèce de révolution au sein de la jeunesse, dans une période d'une Angleterre qui était en crise, où il y avait un chômage énorme, où il y avait pas mal de problèmes politiques, où les gens étaient dans la misère, c'était aussi cracher son venin et toutes les choses qui pouvaient être dites sur le pouvoir, sur les dominants, sur l'État, sur la société telle qu'elle était pour la décrire. Et donc, ils ont commencé à s'autoproduire, ce qui était différent, parce que beaucoup de groupes punk avaient signé sur des majors. Donc, c'était fait récupérer par le système, par l'industrie musicale. Paris s'était fait récupérer par EMI, par Virgin, par toutes les grandes majors. Et en fait, tout ce discours contestataire, voire situationniste, parce que c'était quand même assez influencé par le situationnisme, en fait, le système l'a récupéré pour y faire du business, faire de l'argent et détourner finalement le discours originel. Et donc, Crass a décidé de faire quelque chose de plus sérieux, en s'autoproduisant, en créant leur propre label, en mettant en avant des idées comme le pacifisme, l'anarchisme, le féminisme, et en disant, bon voilà, maintenant on va faire quelque chose de plus sérieux, et voilà, les textes étaient très revendicateurs, à la fois étaient critiques sur ce qui était devenu le mouvement punk, et en même temps vivaient en accord avec leurs idées. Ils se sont installés en communauté, en collectif, à 30 km de Londres. On commençait à faire des discours très radicaux, à refuser de jouer dans certaines salles, à faire des concerts de soutien, à s'autodistribuer, à mettre toutes les paroles des chansons dans les disques. Et il fonctionnait plus comme un collectif en fait. C'était à la fois artistique, graphiste, politique, musical. Et leur particularité, c'est que leur musique était très brute, très dure, pas qu'un niveau musical exceptionnel, mais et avec un texte, des discours très 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 radicaux quoi, par rapport à la moyenne des groupes. Et du coup, quand ils se sont fait un peu repérer, Sex Pistols, Crass, pardon. Et ça a touché pas mal de gens, et pas mal de gens dans les chroniqueurs musicaux, notamment il y avait le magazine Sounds. Ils ont été un peu étonnés par cette radicalité et ils se sont fait pas mal attaquer au début parce que la musique était pas d'une grande qualité quoi. Et du coup Crass a continué à développer, à avoir des projets et prendre tout ça au sérieux quoi. Voilà. Mais ça s'est pas appelé anarcho-punk au début, on les appelait Anarchy Brigade. L'anarcho-punk mouvement assez au début des années 80 quand il y a eu tout le développement en fait d'une scène qu'on suivait un peu les pas de Crass, à s'auto-distribuer, à avoir des textes très politiques, très durs, très sérieux, une contestation sociale de plus en plus importante, que pas mal de groupes ont signé sur le label de Crass et sur d'autres labels qui se créaient de manière underground, que on a commencé à parler d'un mouvement anarcho-punk.
Alors ce groupe Crass dont tu viens de décrire un peu la forme politique et musicale, ça représente quoi en Angleterre à cette période-là ? Il y a beaucoup de gens qui l'écoutent ou c'est vraiment un petit milieu underground et très séparé du reste de la société ?
C'est plutôt un petit milieu. C'est peut-être qu'il y a pas mal de gens qui écoutaient du punk, mais ils ont trouvé que le discours de Crass était plus sérieux, plus intéressant, plus porteur. Et cette dynamique de pouvoir s'autodistribuer, s'autoproduire, ça a fait des émules, quoi. Il y a eu, il y avait le label Crass Records, il y a eu Corpus Christi, il y a eu le label de Blurg du gars de Subhumans, il y a eu pas mal de groupes pouvaient créer leur propre label, quoi. Donc ça a commencé à devenir un peu plus sérieux, surtout que c'est des gens qui étaient très impliqués dans la lutte pacifiste, mais d'un point de vue antinucléaire, parce qu'il y avait quand même... Il faut savoir qu'au début des années 80, cette menace était vraiment prise au sérieux. Quoi. Il y avait vraiment cette idée qu'à un moment donné, il allait y avoir un conflit nucléaire. Et du coup, beaucoup de gens de la scène anarcho-punk se sont investis là-dedans. Se sont vachement investis aussi sur la question de la libération animale. Par exemple, Crass, ils étaient végétariens parce que dans les membres fondateurs de Crass, comme Penny Rimbaud, ou Eve Libertine ou Joy de Vivre, c'est des gens qui étaient issus des mouvements plutôt artistiques des années 60, des mouvements un peu situationnistes, des mouvements pacifistes et des mouvements hippies radicaux comme les hippies. et du coup avaient intégré cette question du végétarisme et la libération animale dans leur discours. Et du coup, la particularité du mouvement anarcho-punk, c'était aussi de s'investir sur ces luttes-là. Donc ça fait vraiment un truc un petit peu à part. Et c'était un peu en opposition avec des groupes qui étaient un peu des grosses stars, qui étaient sur des majors. Voilà quoi. Et c'est vrai que c'était un truc underground, mais ils ont créé leur propre scène qui a eu un impact assez énorme dans la tête des jeunes punks anglais, en tout cas.
Cette période, en plus, c'est 1979. Thatcher qui arrive au gouvernement en Angleterre. Donc j'imagine aussi que ça fait un effet miroir. Quand on a un gouvernement aussi dur, peut-être qu'il y a aussi une radicalisation des marges.
Bah oui, tout à fait. Tout à fait, parce que même pour revenir à Crass tout au début, ils étaient un peu comme tous les punks, c'était un peu Destroy, c'était un peu la fête, les concerts c'était un peu n'importe quoi, il n'y avait pas forcément grand monde, hein, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Et à un moment donné, Penny Rimbaud a proposé à ce que ça devienne vraiment très sérieux, ils se sont arrêtés de boire de l'alcool, plus du thé, les concerts se transformaient en meetings politiques finalement. Et en fait, il y a eu plus en plus de gens à le suivre et à créer des groupes, même qui étaient influencés par ce style musical, parce que Crass, en tant que tel, a créé plus ou moins un style qui était expérimental, mais qui était un peu plus basique, où les paroles prenaient une importance énorme et la démarche de diffuser ces idées était importante. C'est-à-dire que autant les paroles, elles accompagnent les luttes sociales, elles accompagnent les transformations sociales, autant les paroles, elles impliquent le fait de faire des actions, d'être en cohérence par rapport au discours, et c'est pas simplement de dire des choses en l'air, et c'est d'être cohérent et de faire en chose que dans sa vie au quotidien, s'investir et être en cohérence par rapport à un discours anarchiste, libertaire. Donc autant que ça soit dans les luttes sociales, par rapport aux travailleurs, mais aussi dans le mode de vie collectif. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui ont suivi ce mode-là et qui ont créé des collectifs à droite, à gauche, quoi.
On va faire une première pause musicale et tu choisis quoi comme morceau de Crass, j'imagine ?
On va mettre 12 Hours for Living. C'est un peu le tube de Crass de 78 qui est sorti sur Feeding of 5000.
On écoute ça tout de suite. Alors dans le mouvement anarcho-punk, mouvement musical qui développe aussi des idées anarchistes, tu viens nous parler de ce groupe Crass en Angleterre, sous Thatcher, et qui influence aussi tout un tas d'autres personnes qui vont dans ces idées politiques et dans cette musique. Alors est-ce que tu peux développer un peu, savoir comment ça évolue tout ce mouvement ?
Bon, en fait, il y a plus ou moins des réseaux qui se mettent en place, mais c'est un peu ce qui se passe un peu partout au niveau mondial aussi. Bon, proprement en Angleterre, effectivement, quand Thatcher arrive, c'était vraiment, s'appelle la Dame de Fer, donc une politique d'austérité, une période de grand chômage, de misère. Et le punk se décale aussi des grandes villes, donc ça touche beaucoup les provinces, les campagnes, donc il y a pas mal de groupes qui se développent, mais avec un côté beaucoup plus prolétaire. Plutôt que le côté un peu bourgeois, artistique. Et du coup, il y a des tas de groupes, même en dehors de l'anarcho-punk, qui se développent. Des groupes plus connus comme The Exploited, GBH, Discharge, Chaos UK, tout un tas de groupes qui commencent à prendre de l'importance, qui ont des discours plus ou moins politiques, sociales et tout ça. Bon, Exploited, c'est un groupe à part, parce que ça a été un peu très controversé, notamment les relations du chanteur avec certains skinheads ou bonheads, ça a été un peu craignos. Mais les autres groupes étaient quand même relativement intéressants. Et après Crass, par contre, il y a eu des groupes comme The Flux of the Pink Indians, Dirt, Poison Girl, Lost Series, Subhumans, tout un tas d'autres groupes comme ça qui sont créés et créent leur propre label et faisaient beaucoup de concerts de soutien. C'est-à-dire qu'on on voyait bien les concerts avec toutes les banderoles derrière, les slogans, les soirées de soutien qu'ils organisaient pour différentes luttes. Ça devenait vraiment des meetings et les gens croyaient vraiment dans une révolution possible et dans un truc à venir, quoi. Il y avait quelque chose qui prenait, quoi. Et ils y croyaient. Donc c'était quelque chose qui était très très fort. C'était aussi, c'était aussi lié au mouvement squat. Et ça a eu une influence au niveau international. Par exemple, aux États-Unis, des groupes comme Dead Kennedys, donc avec Jello Biafra, ont commencé à avoir des textes pareils très politisés, très incisifs envers le gouvernement, qui est pareil influencé par les idées anarchistes, mais des groupes comme Youth Brigade également, des groupes comme SSD, comme Circle Jerks, comme Black Flag, finalement qui a été un peu le début du hardcore. C'était un peu la version punk rock aux États-Unis, mais pareil dans la démarche de s'autoproduire, s'autodistribuer. On peut aller pareil dans les pays scandinaves, en Suède, au Danemark, en Finlande, il y a eu un impact énorme au Japon, en Amérique latine, enfin partout dans le monde, enfin pas mal dans les pays occidentaux quand même, il y a eu un impact et le punk a commencé à prendre de l'ampleur, mais c'est surtout ce côté underground, politique, contestataire et autoproduit qui a pris la place. Parce qu'en fait, c'était purement anticapitaliste de s'autoproduire, c'est-à-dire fuck à l'industrie musicale. Nous, on dit ce qu'on a à dire, et on a les paroles, on est libre de dire ce qu'on veut dire, on n'a pas besoin d'être des grands musiciens et surtout, on est impliqués. Voilà, c'était aussi c'était ça qui était hyper important. Et du coup, Crass ont commencé à faire des compilations qui s'appellent Bullshit Detector, qui permettaient à tout un tas de groupes de se faire connaître, des petits groupes, et avec une consistance politique importante derrière.
Alors on part d'Angleterre, ça s'étend un peu partout dans le monde, notamment dans les pays occidentaux, mais c'est pas une analyse qu'aujourd'hui on a a posteriori, c'est-à-dire que c'est un réel mouvement, c'est-à-dire que les gens de n'importe quel pays d'où ils viennent se reconnaissent dans ce mouvement-là, et c'est des gens qui se connaissent.
Oui, effectivement. C'est-à-dire que l'idée principale d'avoir des textes vraiment politisés, tout ça, c'était essentiel. De pouvoir s'autoproduire, s'autodistribuer, ça, c'était essentiel. Après, tout le monde ne se revendiquait pas forcément de l'anarcho-punk, parce que l'anarcho-punk, c'était quand même vachement anglais comme truc, quoi. C'était même dans le style musical, on parle souvent du style anarcho-punk anglais début des années 80. Et on a dit anarcho-punk et peace-punk aussi. Parce que justement, quand il y a eu la guerre des Malouines, par exemple, quand l'Angleterre était impliqués dans la guerre des Malouines, Crass ont fait énormément de trucs par rapport à ça, et ils ont fait aussi à l'époque un montage d'une fausse discussion entre Thatcher et Reagan, d'une cassette qu'ils ont distribuée, qu'ils ont fait circuler partout en Europe, qui arrivait jusqu'aux États-Unis. Ils sont tapés la CIA, le FBI, les services secrets anglais sur le dos, personne ne savait d'où ça venait. C'était des petites bombes comme ça qu'ils ont fait, quoi. Ils ont organisé énormément de manifs avec le CDC à l'époque, des gros collectifs pacifistes, je crois que c'était CDC, je ne suis plus sûr. Et ils ont fait énormément de choses comme ça, mais le montage Reagan-Thatcher, c'est quelque chose qui a été, avant que ça arrive jusqu'à eux, c'était, plein de gens se sont demandé, mais c'est quoi ce délire, quoi ? C'est un faux, c'était un montage, mais ça a fait un impact énorme, ça a créé des problèmes de ouf. Je veux dire, ils se sont tapés tous les services secrets du monde sur le dos, quoi. Ils paraissaient comme un groupe, par exemple, fermé et sectaire, trop radical, pour pas mal d'autres punks, et un peu moraliste aussi, mais en même temps, c'était quelque part le groupe le plus ouvert. Ils avaient une maison qui était ouverte à tout le monde en permanence. Ils vivaient tous ensemble, ils préparaient des projets politiques et artistiques ensemble, mais c'était une maison que tout le monde passait, quoi. Il y a même eu des gens, ils se sont fait approcher par la fraction Armée Rouge, la bande Abadère, il y a des gens qui sont passés chez eux, tu avais des gens de plein de groupes. Dans une année, il pouvait y avoir jusqu'à 2000 personnes qui passaient chez eux. Donc quelque part, d'un côté, ils paraissaient comme un groupe fermé politiquement ou trop radical, et d'un autre côté, c'était un groupe très ouvert parce qu'ils accueillaient tout le monde et prêts à discuter avec tout le monde. Et bon, après, la particularité un peu, c'est qu'eux, ils vivaient à la campagne, à 30 bornes de Londres, et ils ne vivaient pas forcément la réalité de ce que les gens vivaient dans la rue là-bas, ou ce que les punks vivaient là-bas. Voilà. Et des fois, ça s'est retourné contre eux. Notamment, une fois, il y a des skinheads néo-nazis qui sont venus à un de leurs concerts, à la fin des années 70, début 80. Et ils ont voulu empêcher la baston parce que les gens du Socialist Worker, des trotskistes qui ont voulu venir, qui ont voulu les défoncer, eux, ils ont plus ou moins empêché cette baston-là pour éviter que les gens se massacrent, parce que Crass pensait, d'un point de vue mais pacifiste, pouvoir régler la question et que ces gens-là puissent entendre leurs paroles pour leur dire « vous vous trompez de lutte ». Et du coup, ils se sont fait très critiquer en disant « bon, bah, vous vivez à la campagne, vous êtes décalé de la réalité de ce qui se passe dans la rue, à Londres notamment, mais aussi dans les grandes villes, et qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un affrontement ». Et Conflict, qui est un groupe très connu de la scène anarcho-punk, qui a suivi un peu les pas de Crass, notamment Steve Ignorant, le chanteur de Crass, a chanté dans Conflict sur plusieurs albums après, s'en sont revenus du pacifisme, ainsi que Shumba Wumba. Ils se sont dit qu'à un moment donné, à force de se faire latter dans les concerts, ils disent « bon, maintenant, il faut répondre coup pour coup ». Et c'est aussi cette réalité de dire d'aller dans les manifs. Par exemple, Conflict, leurs paroles, c'était pas que des paroles, c'était les premiers dans les manifs, c'était les premiers à s'affronter avec la police. Donc il y a une chanson qui s'appelle « From Protest to Resistance », qu'on va pouvoir mettre juste après. C'est justement la contestation à la résistance active dans la rue, quoi. Voilà, c'était des émeutiers, quoi, en fait.
Eh ben, on écoute ça tout de suite, alors. From Protest to Resistance de Conflict. Alors on peut passer de l'Angleterre à ce qui se passe en France aussi, parce qu'il y a une scène anarcho-punk qui se développe juste à ce moment-là.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc il y a eu quelques groupes français comme Metal Urbain qui avaient des textes très anarchistes, mais des groupes plus rock'n'roll comme Star Shooter, mais tu avais aussi les Olivenstein, tu avais aussi Bijou, tu avais aussi différents groupes. Bon, c'était une scène punk rock française très influencée par le rock'n'roll, à part Metal Urbain qui était un petit peu à part. Et donc au début des années 80, il y a eu des groupes punk français mais qui étaient pas mal dans la provoque, mais il y a eu des groupes intéressants comme Oberkampf, mon Gogol premier qui était pas leur provocation, tu avais des groupes comme Camera Silence ou des groupes comme comme les collabos pour Brest qui est pas loin. Bon, c'était un peu une scène un peu particulière. Et en Paris, plus particulièrement, des groupes comme Berreur et Noir se sont créés. Pareil, tu es dans cette démarche de s'autoproduire, de faire des petits labels, mais ils ont commencé à avoir des textes de plus en plus politisés, d'album en album. Leur premier album, c'est comme Macadam Massacre. Après, ils ont fait Concerto pour des traqués en 85, dont les textes deviennent plus durs. Au début, ils étaient deux, trois, mais il y avait quand même cette idée de faire un peu du spectacle, du théâtre, un peu du cirque, tout en ayant des textes poétisés et surtout parler de ce qui se passait à travers le monde. Mais il y avait quand même des idées anarchistes très les idées anarchistes qui étaient mises en avant et les idées antifascistes. Et ce qui a été bien, parce que les BRU, ils ont quand même permis à ce que la scène punk garde une consistance politique en France et surtout antifasciste. Parce que, en fait, il y avait un certain nombre de groupes punk des campagnes qui, certains étaient intéressants, d'autres n'étaient pas intéressants, faisaient de la provoque de merde et des textes sexistes, homophobes, vraiment relous. Et il y avait le label Chaos Productions qui ont sorti les compiles Chaos en France où c'était un peu la beaufrie, quoi. Mais après, c'était un peu pas mal des punks des provinces qui n'avaient pas forcément eu accès à certains groupes ou à certaines lectures. Et du coup, ben, par rapport à ce qui se passait là et la scène skin néo-nazie qui se développait, qui avait essayé de récupérer le mouvement skinhead, et notamment à Paris avec les skin des Halles et tous les autres bandes, il y avait des groupes fachos comme Evil Skin, Légion 88, Bouquin 84, et bon, ben, Renard a commencé à foutre un coup de pression par rapport à ça. Et donc, toute la scène, ce qu'on appelait la scène rock alternative, qui ont créé leur propre label indépendant avec Bondage notamment, mais il y avait aussi le mouvement Gougnaf, Réseau Alternatif, Jungle Hop. C'est des labels, voilà, qui produisaient des groupes. Et en fait, bon, Berenard, hein, avec Washington Headcast, avec Louvin Vogue 88, avec tout un tas de groupes de ce qu'on appelle l'écurie rock alternatif, ont apporté toute une espèce de discours quand même politique. C'était moins, peut-être moins radical que Crass, mais il y avait un côté très populaire. Par exemple, Berenard, ils étaient écoutés par tout le monde dans les années 80. Ça sortait largement du cadre punk. Et voilà, et ça a eu un impact énorme. Et que quand ils sont séparés en 89, parce qu'ils se sont dit, voilà, tout ce qu'on a voulu créer en milieu alternatif, il est mort. Ce mouvement, les groupes de copains, ils ont fini par signer sur des majors comme la Mano Negra, comme les Négresses Vertes, comme les Satellites, tout ça, qui ont un peu tourné le dos au rock alternatif ou au punk politisé, si on veut. Le pot en l'heure, hein, c'était fini, quoi, c'était du passé. Du coup, bah, les BRU ont décidé de s'arrêter. Et c'est là qu'en fait, on s'est rendu compte qu'à quel point c'est devenu un groupe mythique, à quel point ils avaient une influence politique, et ça a créé des générations et des générations d'anarchistes, en fait. Parce qu'en fait, ils ouvraient l'esprit aux gens sur un tas de choses, mais en même temps ils maintenaient cette idée antifasciste radicale. Voilà, les idées féministes n'étaient pas encore assez développées, mais il y avait des groupes plus underground. Il y avait des groupes comme Verdun qui étaient très 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 anarchistes. Il y avait pas mal de groupes intéressants. Du coup, je peux rebondir là-dessus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, avec l'Anarcho-Punk Fédération qu'on avait créé au début des années 2000, inspiré par l'Anarcho-Punk Federation créé aux États-Unis par le groupe Apolitical, donc on a créé ça en France. Il y a eu des fanzines qui sont sortis, les Contre-Cultures et Deuxième Sous-Sol, et la compilation Le DIY ou la Mort, qui retraçait l'historique de 1984 à 2006 d'un certain nombre de groupes politiques, anarchistes, punk, anarchistes et DIY, qui recréent plus ou moins une espèce de trait d'union sur une scène plus ou moins anarcho-punk en France. Voilà. Le DIY, ça veut dire le do-it-yourself. C'est le fait de faire les choses par soi-même. Ça peut être effectivement produire le disque par un label. Ça peut être faire les pochettes soi-même. C'est le fait d'organiser des concerts soi-même. C'est aussi le fanzina, parce que le fanzina, ça a toujours été un outil hyper important dans le punk pour communiquer. Parce que finalement, il n'y avait pas Internet avant. Il faut quand même imaginer le monde sans Internet avant. Donc les gens, pour communiquer, pour s'organiser, pour faire connaître les groupes, pour faire connaître des idées. Parce que dans le fanzina, il peut y avoir certainement des interviews de groupes, mais il y avait aussi des flyers de concerts. Il pouvait y avoir des textes politiques et anarchistes, des points de vue, des relais d'information, et c'était hyper important, quoi. Donc ça a eu un rôle énorme, énorme dans la scène punk. Voilà, ça, c'est vrai que le fanzina, c'est un truc vraiment à part entière. Et donc ce qu'on a appelé le do it yourself, c'est le fait de faire tout par soi-même. En fait, on a créé un réseau international qui a une consistance, qui continue à exister aujourd'hui et qui continue à se développer. Et cette idée du DIY qui a été vachement mis en avant par l'anarcho-punk, maintenant c'est quelque chose qui est récupéré par tout le monde. Je veux dire, on entend parler partout, quoi.
Alors je reviens sur la période historique des années 80 dont tu viens de parler. Donc ça se développe en France, l'anarcho-punk se développe en France. Il y a toute une partie des groupes qui vont vers des gros labels, donc en gros qui se font récupérer de manière commerciale. Et là, à ce moment-là, les Berruriers Noirs, qui sont un des groupes les plus connus en France, décident de s'arrêter. Donc là, j'imagine qu'il y a une fracture qui se passe à un moment donné, mais il y a aussi une continuité, pour le coup.
Oui, effectivement. Bah, en fait, parallèlement où il y avait le rock alternatif, il y a toute une scène, ce qu'on appelle le hardcore. Le hardcore, en fait, ça vient du punk hardcore. C'était le terme vient des États-Unis. C'était le noyau dur, le hardcore of punk, le noyau dur du punk.
Quand tu dis hardcore, c'est au niveau de la musique aussi ?
Oui, alors c'était le noyau dur du punk, mais aussi une musique plus rapide, plus extrême, plus dure. Parce qu'effectivement, le hardcore, au début des années 80, la musique a commencé à s'accélérer, à aller plus vite, à avoir des textes plus rapides, des chants plus criés et des textes vachement plus radicaux. Voilà, donc ce qu'on a appelé le hardcore. Parce que, bon, bah, le punk 77, des fois, c'était un peu gentillet. Bon, c'est certes, les Clash, ils faisaient des textes politiques et disaient des choses intéressantes. D'autres groupes disaient des choses intéressantes. Mais là, ça devenait plus dur, quoi, plus direct et voilà, sans concession. Et du coup, donc la scène hardcore qui s'était développée un peu partout dans le monde est arrivée un peu en France. Le premier groupe de hardcore, c'était Imatlos, qui a commencé à faire une musique beaucoup plus rapide et vachement mieux exécutée au niveau technique. Il y a eu des groupes comme Rapt, des groupes comme Sherwood Pogo, Lecnom, Fleetox, et donc il y a eu des réseaux comme Réseau Alternatif ou Jungle Hop, des labels qui ont commencé à produire ces groupes-là. Il y a eu des compilations comme en 89 qui s'appelait Hardcore Evolution, où il y a tous ces groupes, toute cette scène-là qui est représentée. Et donc il y avait ce côté underground. Et au début des années 90, toujours lié au squat, toujours lié au punk et au hardcore, et ben, il y a eu plein de groupes underground, encore plus underground que les années 80, moins connus. Et là, il fallait vraiment être dans des réseaux pour les connaître. C'était aussi lié à la scène crust. Le crust, c'est un peu l'aspect nihiliste de l'anarcho-punk. Le crust est né en Angleterre. C'était un croisement entre les anarcho-punk, le punk hardcore comme des groupes comme Discharge, Chaos UK, et les côtés extrême metal. Bon, les premiers groupes, c'était plus lent, c'était genre Amebix, Ice Grinder, et après, il y a eu le crosscore avec Doom, Extremos Terror, bon, Napalm Death, c'était plus le grindcore, mais quand même, et toujours cette consistance politique, et le crust s'est pas mal développé en France au début des années 90, et on a créé tout un réseau national et international, vachement lié au squat, à des petites assos, à des locaux, et il y a eu plein de groupes qui sont nés de ça, quoi. Je pense, bah, notamment, pour faire le lien avec Berrurier Noir, il y avait un groupe qui s'appelait Traumatisme. C'était des gens qui pendant 5 ans, ont vécu en camion, ils ouvraient que des squats et jouaient dans plein d'endroits. Sinon, ils étaient installés près de Saorge, pas loin d'Italie. Et on peut écouter un morceau de Traumatisme, Auschwitz Planet, par exemple. Voilà, sur la question animale. Parce qu'ils étaient très branchés végétarisme et antispécisme. Et donc, c'est un peu, sur l'environnement, l'écologie. C'est pas du crust, ça reste du punk, mais ils étaient dans l'esprit crust et anarcho-punk. Voilà, après le crust, on pourra faire écouter quelques morceaux, mais je pense qu'il y a des morceaux intéressants des années 80, des années 90. Et toute cette scène en France, enfin début des années 90, grâce aux fanzines et tout ça, et aux petits labels, ça s'est vraiment développé. Mais à l'époque, pour avoir une information, il fallait aller dans un concert. De ce concert-là, tu avais un flyer pour l'autre concert. Si tu voulais avoir des disques, et ben, t'envoyais un timbre, un label, tu chopais une adresse qui t'envoyait son catalogue, qui vendait des brochures, des bouquins et des disques, t'en collais les timbres, tu les réutilisais à volonté, comme ça on payait pas, et en fait les réseaux se constituaient, les gens commençaient à se rencontrer, il y a des gens qui se sont écrits pendant 15 ans sans se rencontrer physiquement, quoi. C'était assez rigolo, quoi. Ça arrive encore, et du coup ça s'est constitué avant l'arrivée d'internet, et toute cette scène là se constituait, c'était intéressant, quoi. C'était autre chose que, parce que le punk classique qu'on avait connu dans les années 80, c'était un peu effondré, quoi. Parce que la mode un peu dans les milieux des années 90, c'était un peu le hip-hop hardcore, le metal, le New York hardcore, tous ces trucs-là. Et la scène anarcho-punk, crust, fastcore, c'était plus underground, c'était plus politisé. Où là, les questions de la libération animale, où la question antisexiste et féministe était vachement mise en avant, où il y a tout un tas de luttes qui sont maintenant peut-être plus connues, mais à l'époque très portées par cette scène-là, qui portait des trucs véritables, quoi, qui gardait des principes et les tenait, gardait des lignes.
Et on écoute Auschwitz Plan de Traumatisme.
Thank you. rembouillés sans répit pour la loi.
Alors, tu as parlé de tout un tas d'idées politiques, et notamment le féminisme, qu'on a parlé à plusieurs moments. Donc, c'est un aspect assez important aussi qui se développe dans l'anarcho-punk.
Vite fait, pour revenir à Crass, quand Crass a sorti l'album Penis Envy, donc leur troisième album en 1981, c'était donc que les chanteuses qui chantaient. C'était des paroles féministes qui s'attaquaient vraiment aux idées conservatrices, réactionnaires, homophobes du parti conservateur et de la société conservatrice. Il y a eu de plus en plus de filles qui ont commencé à prendre le micro ou jouer d'autres instruments. Et donc ça a commencé à avoir, où les idées féministes ont commencé à prendre la place dans le punk, parce que c'était quand même un truc beaucoup d'hommes, blanc notamment, souvent hétérosexuel, assez dominant. Ce qui est un peu paradoxal, parce qu'au début du punk en 77, c'était beaucoup plus, la plupart des punks qui jouaient dans des boîtes de nuit gays, c'était vachement travesti. Mais au début des années 80, il y a un côté un peu plus dur qui est arrivé, avec une imagerie plus dure, plus virile, plus guerrière. Donc voilà, donc c'était bien qu'il y ait eu cette contrepartie féministe. Donc pas mal de groupes, notamment la scène arco-punk, s'était vachement mis en avant. Et aux États-Unis, notamment du côté de Seattle, quand il y a la scène grunge, qui était un dérivé plus ou moins du punk rock, mais avec un peu de stoner, un peu de métal, ben, il y a des groupes fin 80, début 90, comme Bikini Kill, qui ont développé ce qu'on a appelé après le Riot Girl. Donc c'était des groupes uniquement féminins. Avec des textes qui dénonçaient toute cette société patriarcale et machiste, notamment dans les rapports dans notre scène, dans la scène punk notamment, mais pas que, en général. Donc c'est une manière de détruire ce monde patriarcal. Et en fait, ça a fait des émules comme Brad Mobile et tout un tas de groupes. Je pense aussi à Tim Drash, comme des groupes queer punk aussi. Il y a tout le mouvement queer punk qui s'est développé. Et donc ça a eu une influence énorme. Et ça a eu un retour aussi dans la tête des garçons de la scène punk qui finalement commencer à prendre conscience de tout un tas de comportements, des pogo macho, des attitudes virilistes, des réflexions de merde sur les filles pendant les concerts, sur voilà, il y a le non-respect, la domination, musique violente ne veut pas dire forcément danse violente, mais voilà, c'était. Et du coup, le Riot Girl, c'était énorme et ça continue aujourd'hui. Il y a plein de filles qui s'organisent, qui s'auto-organisent, qui essayent de faire des endroits dits safe, ou du moins que cette parole féministe soit entendue, et que comme le punk c'est une manière de contester, de pouvoir dire ouvertement ce qu'on a à dire, et ben elles ont utilisé le punk pour développer et défendre ses idées féministes. Je vais mettre un petit morceau de Bikini Kill, là j'ai pas le titre en tête, mais allons-y.
Et c'est quelle époque?
Ah bah début des années 90.
C'est Rebel Girl de Bikini Kill.
I think I wanna be a bad
Alors quand on parle de la narcopunk, ça va aussi avec tout un imaginaire, mais aussi avec des images. Et les premières images qu'on voit, c'est celles qui sont sur les albums, notamment. Après, ça va aussi avec un look, une manière de s'habiller, des patchs, etc. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est ancré depuis le début dans ce mouvement ?
Oui, oui, souvent les pochettes de punk, elles ont toujours été assez marquantes, assez provocatrices, assez choquantes. Mais ce qui était rigolo, pour revenir à Crass dans les premières pochettes, justement pour se moquer un peu des Sex Pistols et du boys band que c'était devenu, ils avaient fait. Il y a une photo très connue de Sex Pistols qui sont contre un mur, mais en fait, ils leur avaient foutu la photo de Margaret Thatcher, de la reine, du pape, et de. En fait, leur avaient changé la tête. Et autrement, c'était des visuels qui dénonçaient toute la société de consommation, la société marchande, les militaires, les rapports de domination. Il y avait tout ça qui était mis un peu dans cette pochette, ça évoquait énormément de choses. Et c'était vachement, c'était intéressant, et du coup une pochette n'était plus qu'un pochette, ça devenait un poster. Et je pense une pochette de Discharge où on imagine une pochette divisée en quatre images, et d'un côté on voit des gens sur la plage qui sont en train de bronzer, pendant que d'autres sont des cadavres morts sur une plage après la bombe d'Hiroshima. Où tu vois d'autres gens allongés, à côté tu vois des tas de têtes de mort. Donc il y avait cette imagerie aussi vachement sur la guerre, la destruction de la guerre, leur rapport de l'humanité, comment les gens souffrent et sont victimes de gens qui jouent à la guerre, en fait, finalement, et les conséquences que ça peut avoir sur plein de populations, et surtout que nous, dans nos pays occidentaux, ne subissons pas ce que d'autres gens subissent par rapport à la politique de nos gouvernements. Et je pense aussi, par exemple, à d'autres dessinateurs dans la scène anarcho-punk, notamment à Nick Blinko, qui est quelqu'un de particulier, qui chantait dans Rudimentary Penny, avec des textes assez sombres, assez durs, mais assez psychotiques, des fois avec des phrases qui se répètent, et il faisait des pochettes sur du papier à gratter, mais vraiment au détail, c'était complètement fou. Enfin, j'invite les personnes qui entendent cette émission à aller taper sur Internet Rudimentary Penny et d'aller voir Nick Blinko. C'est quelqu'un qui a fait des séjours à l'hôpital psychiatrique aussi, et qui a utilisé ça en fait pour alimenter sa musique et ses dessins. Et c'est quelqu'un qui est connu aussi pour ses dessins maintenant, qui font des expositions. C'est comme Jill Vodger dans Crass, hein. Elle est très connue maintenant dans le domaine artistique, hein. Je crois que d'ailleurs elle vend un peu cher ses toiles, c'est un peu paradoxal, mais bon, c'est comme ça. Et il y a pas mal de gens qui se sont fait connaître, en fait. Il y a même des gens qui ont vécu cette période-là qui maintenant sont dans les trucs artistiques, mais toujours une dénonciation. Il y a des pochettes qui sont très très provocatrices. Napalm Death était très fort là-dedans. Extreme Noise Terror aussi, où tu vois, au moins ils dénonçaient toutes les grandes marques, McDonald's, compagnie, par rapport à la faim dans le monde. Tous les céréales qui étaient utilisées pour nourrir la vache du riche et alimenter les magasins de McDo pendant que des gens sont en train de crever la dalle. Là où on leur impose des cultures de céréales, mais en fait, tout ça, c'est pour les virer, c'est pas pour eux, c'est pour les pays riches. Pendant ce temps-là, les gens crèvent la dalle, quoi. Bon, il y a plein de pochettes énormes qui ont toujours été hyper intéressantes et qui sont évocatrices. Et ça continue aujourd'hui et aujourd'hui encore. C'est l'imagerie, donc, dans le punk et la narco-punk est hyper important. C'est hyper évocateur. Une pochette en tant que telle, les paroles et les jingles, les titres des chansons, ou même le nom des labels, ont toujours une connotation.
Souvent, on dit punk nos futurs. Et là, tu parles aussi d'un côté très noir, en fait, du punk. Peut-être un côté nihiliste qui est aussi lié à la société industrielle, à la société de consommation qui est en pleine expansion à ce moment-là. Et en quoi c'est lié aussi aux idées anarchistes ? Et j'irai même plus loin, c'est-à-dire que souvent, quand on dit anarchiste, pour les gens qui s'y intéressent pas trop et qui ont des préjugés sur ces idées-là, c'est le chaos, la destruction, le n'importe quoi. Alors que justement, ce qui est porté par le mouvement anarchiste, c'est aussi de la construction, de la solidarité, de la confiance, du partage, du commun. Donc comment ça s'articule, en fait, toute cette imagerie, ce préjugé qu'on peut avoir sur le punk, et ce que vivent aussi les gens dans ce mouvement-là ?
C'est vrai que c'est tout un tas de choses. Pour revenir à l'origine, quand par exemple le mot No Future a été récupéré, effectivement ça donne un côté nihiliste. Seulement les gens ont mal interprété la chanson Sex Pistols. Parce que quand il dit sur God Save the Queen à la fin, donc ils avaient fait ça, c'était un peu sur un bateau mouche pendant le jubilé de la reine, ils ont joué cette chanson sur un bateau mouche, bon ils se sont fait arrêter après. Mais quand il dit c'est No Future for you, c'est-à-dire for you pour ton système, pour ton parti conservateur, pour la société que vous développez, il n'y a pas d'avenir. Mais pour vous, parce qu'en en fait, on va le détruire. Ce n'était pas d'avenir pour nous, les civils, les citoyens. C'est, voilà, ça a été mal interprété. Et du coup, le côté un peu chaos punk, ce qu'on a un peu appelé chaos punk, ils ont interprété comme pas d'avenir pour nous. Donc les gens se sont complètement... la révolte punk s'est complètement diluée dans la drogue, dans la défonce, dans pas mal de choses. Donc il y a eu un peu ce côté... c'est un peu les deux faces d'une pièce, quelque part. Il y avait des gens qui disaient non, c'est Yes We Church. Bah, les Béru disaient ça aussi. C'est non, on peut s'organiser, s'autodistribuer, développer des valeurs, être dans les réseaux de solidarité, d'entraide, développer tout un tas d'alternatives, créer un autre monde, en fait, tout de suite. C'est-à-dire que l'anarchie, on n'a pas besoin d'attendre l'anarchie, une société autogérée, sans État, sans gouvernement, où les gens décident pour eux-mêmes ce qu'ils veulent faire, donc ils prennent leurs affaires en main. On peut la créer tout de suite à travers tout un tas de structures ou de réseaux et de mise en place d'actions directes, autant pour parler des questions de nourriture, d'environnement, de logement, de santé, d'éducation. Et en fait, d'autres personnes l'ont interprété comme un truc, voilà, non, c'est pas possible, il n'y a pas d'avenir, on se détruit, on en a foutre et on vit tout de suite. Et maintenant, quoi? Voilà, genre, je vais pas vieillir, je vais pas aller vieux. Et puis voilà, bah, par exemple, l'image de Sid Vicious qui est mort en prison à 19 ans parce que défoncé... Et puis bon, voilà, enfin bon, on va pas épiloguer sur ce personnage, mais en fait il y avait un peu cette idée là de se défoncer, de vivre vite et tout de suite. Et le côté nihiliste, après, dans le côté anarcho-punk, il y a aussi une vision sombre, parce qu'en fait c'était une évidence que la bombe nucléaire allait péter. Crass, quand ils sont créés, ils avaient décidé déjà de s'arrêter en 1984, depuis le début, en référence au bouquin de George Orwell 1984. Ils avaient déjà décidé, ils étaient persuadés qu'à un moment donné ça allait péter. La guerre des Malouines aussi était un exemple. Les gens, ils avaient un peu peur des conséquences que ça allait pouvoir avoir. Et voilà, il y a eu un côté un peu sombre, quoi. Cette société, elle est noire, elle est pourrie. Les rapports humains, ils sont pourris. Vers quoi on se dirige, c'est pourri. Les multinationales ont pris tout le pouvoir. Les États sont là pour préserver l'ordre, la sécurité et la justice. Il y a une répression énorme. Les gens se retrouvent dans la misère. Et une poignée de gens détiennent toutes les richesses pendant qu'une majorité de la planète crève. Donc il y avait un peu, en dénonçant ça, il y avait un côté un peu noir, un peu sombre, dire est-ce qu'on a vraiment un avenir, quoi, dans ce monde-là. Donc c'est normal que la question soit posée, mais en même temps on peut avoir un côté nihiliste, mais en même temps se dire tant qu'à être là, on s'organise pour créer un autre monde tout de suite.
Alors pour la fin de cette première partie, on va écouter un dernier morceau. Tu choisis quel morceau?
Alors je dirais un morceau de Rudimentary Penny.
Et pour ce morceau de Rudimentary Penny, on écoute Nothing But A Nightmare. C'est une histoire de l'anarcho-punk, un entretien avec Guéna, première partie, une émission de Radio Zanzine.